Ce soir, nous poursuivons sur les attributs, les titres de l'Église. En réalité, nous allons uniquement considérer ce titre, cet attribut qui est donné à l'Église en tant que pied de vigne. L'enseignement du cep et des sarments est tellement riche que nous ne pourrons pas aller plus loin. J'espère que nous pourrons arriver au terme de cette étude. Alors nous allons commencer sans tarder et lire en Jean 15 à partir du verset 1er. Nous allons lire jusqu'au verset 11e. Jean 15, 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Nous allons donc arrêter là la lecture du texte. Cette parabole est tellement riche que nous ne saurions pas par quel bout la prendre, la commencer. Mais je pose une première question. Dans quel but a-t-elle été enseignée? À la lumière du verset 11e. Dans quel but cette parabole a-t-elle été enseignée? Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Cette parabole du cep et des sarments a donc été dispensée, enseignée par le Christ pour que nous ayons en nous sa joie parfaite. Et j'espère que c'est ce qui résultera de cette étude tout à l'heure. Que nous connaîtrons réellement une joie encore plus grande que celle que nous éprouvons quotidiennement parce que nous aurons avancé dans la connaissance des Saintes Écritures, dans la connaissance du Seigneur. Cette parabole a donc pour but la joie des enfants de Dieu. Nous pourrions dire qu'au fond, la vigne, le fruit de la vigne dans les Saintes Écritures est un symbole de joie, puisque généralement l'aboutissement du travail de la vigne est le vin. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et qui est dans les Saintes Écritures une image de la joie. Nous trouvons cela par exemple au psaume 104, verset 15, le vin qui réjouit le cœur de l'homme est-il écrit, hein, il fait plus que l'huile resplendir son visage. Eh bien, puisse le vin nouveau de la joie de Dieu nous inonder ce soir à l'étude du pied de vigne de cette magnifique parabole. Quelle magnifique parabole! Elle enseigne en réalité énormément de choses. Nous allons étudier ce qu'est aux yeux de Dieu un véritable chrétien. Nous allons aussi étudier ce qu'est aux yeux de Dieu toujours la véritable Église, le véritable œcuménisme. Dans cette parabole, trois personnes interviennent. Tout d'abord, le vigneron, le cep, le divin cep, le Christ, et le sarment. Alors, nous n'allons pas essayer de spéculer sur ce que signifie ce qu'est le vigneron ici, ce qu'est le cep et ce que sont les sarments. Le Christ, nous le faisant savoir. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Alors c'est clair, le vigneron, c'est le Père céleste, le vrai cep, c'est Christ. Et au verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et les sarments, ce sont nous. Nous n'avons donc pas à spéculer. Vigneron, cep et sarment sont donc des personnes différentes. Et dans cette parabole, il est un terme qui revient plusieurs fois. Vous l'avez peut-être remarqué, un verbe. C'est le terme « demeurer ». Tout à fait. Ce terme « demeurer » met ensemble, il lie ensemble le vigneron, le cep et le sarment. J'allais dire, il boucle la gerbe. Hein ? Regardez donc, par exemple, au verset 10, Jésus dit « Je demeure dans l'amour de mon Père. » Il est donc lié à son Père. Le sarment, ceci est dit à plusieurs reprises, doit demeurer fixé, attaché au cep. Ce terme qui revient 11 fois, donc uni de manière très forte, hein, ces trois personnes figurées dans ces textes par le vigneron, le cep et le sarment. Il serait bon que nous considérions quelques instants le sens du terme « demeurer ». Demeurer, ça signifie quoi ? Dans nos dictionnaires, nous trouvons ce qui suit. Demeurer, c'est fixer sa demeure ou se fixer sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est élire domicile, quelque part. C'est habiter. Il y a donc, dans le sens du terme « demeurer », une idée de racine profonde qui sont plongées là où nous nous fixons, où nous demeurons, où nous élisons domicile. En effet, le Christ, lui, vient, sort des mains du vigneron, et le sarment, lui, est issu du cep, du divin cep. Mais commençons par, si vous le voulez bien, parler du vigneron. Nous allons prendre les choses dans cet ordre. Le vigneron, tout commence avec lui. Il est avant toute chose. C'est le Père d'éternité, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout commence avec lui, et lui est au-dessus de tout, et notamment au-dessus du cep et des sarments. qu'il regarde d'ailleurs d'en haut. Hein? Le vigneron regarde son pied de vigne, d'en haut, tout sort de ses mains. C'est lui qui plante le cep. Hein? Le cep vient de lui. C'est lui qui plante le cep, le divin cep. Donc, ce cep, Jésus a dit « je suis le vrai cep », hein, par opposition au faux cep, qui peuvent exister ici et là, des hommes qui se sont présentés au monde comme étant le sauveur du monde. Quels hommes ? Il y en a eu énormément. Et aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il y a encore des faux cèpes. Jésus dit « je suis le vrai cep ». Pourquoi ? Parce que dans notre texte, il précise qu'il vient d'en haut. Il est le divin cep. Il a dit aux Juifs « vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut ». Alors, il sort des mains de Dieu et il a été planté par Dieu dans une terre préparée. Vous savez qu'on ne plante pas la vigne n'importe où. Il faut choisir la place la plus adéquate, la plus favorable au pied de vigne, à la croissance de la vigne, etc. Alors, pendant des siècles, une terre a été préparée. Quelle terre ? Je pose la question. Israël, bien sûr. Israël, qui a reçu la révélation du Dieu unique, essentiellement par Moïse, etc. Mais déjà bien avant Moïse, Israël par Abraham, etc., avait reçu aussi la révélation du Dieu unique, de Dieu immense à l'origine de tout. Puis ensuite, grâce aux prophètes et au fil des siècles, par la révélation, cette terre a été préparée jusqu'au moment où le temps venu, le moment venu, le cep de vigne a été planté par le divin vigneron dans cette terre de la Palestine. Et ce divin cep, ce vrai cep par opposition au faux cep, aux mercenaires, etc., dont parle Jésus en Jean 10, qui pourraient être considérés comme des faux ceps, des faux bergers, ce vrai cep a été planté en vue de produire une nouvelle génération d'hommes, de femmes, une nouvelle vigne. Une nouvelle génération d'hommes, de femmes, de par le monde entier. Alors, tout vient du divin vigneron. Nous passons à présent au cep. Alors, le cep, lui, donne naissance au sarment. Vous avez ici un cep, puis vous avez par exemple ici un sarment. Hein. Voilà le sarment. Hein. Le cep est ce qui suit. C'est un peu comme dans le chandelier, la tige centrale, et les sarments, eux, partent un peu dans toutes les directions. Le sarment, lui, est issu du cep, il procède du cep. En dehors du cep, il ne peut pas exister. Absolument pas. Et comme le chrétien sort du Christ, il est issu du Christ. Même le nom de chrétien est issu du Christ. Chrétien, comme vous le savez peut-être, signifie petit Christ. Et en effet, le sarment, au fond, c'est un petit cep. Hein, c'est un petit cep. Ce sarment attaché au cep est l'image de notre union profonde avec Christ. Et cette union n'est pas une union artificielle. C'est une union organique. Retenons bien ce mot, une union organique. Pourquoi organique ? Parce que cette sève du cep passe dans le sarment, l'inonde de sa vie, hein, le tonifie, le vivifie, non seulement lui donne naissance, mais le vivifie, le tonifie. La Bible dit par ailleurs en Romains 6, 5 par exemple, reprenant à peu près cette image, que nous sommes devenus une même plante avec Christ, une union organique, une même plante. La vie du Christ, n'est-ce pas, coule en nous, constamment, pas simplement de temps à autre, mais constamment, constamment, cette sève du Christ, du divin cep, nous inonde, hein, nous renouvelle, nous rafraîchit, nous sommes donc de manière organique liés au Christ. Ce phénomène échappe au regard. Comme il échappe au regard quand on regarde un pied de vigne. Il s'effectue silencieusement, mais il s'effectue vraiment. C'est une vie intense et riche qui passe du cep dans le sarment, et cette circulation est permanente. Il faut qu'elle soit permanente pour la vie, la survie du sarment. Le sarment ne vit pas de réserves accumulées, hein, venant du cep. Pour les temps difficiles, non, il est constamment renouvelé, constamment renouvelé, constamment renouvelé. Par une sève toute fraîche et abondante. Eh bien, nous aussi, hein, il nous faut, sur la base de cette image, être constamment renouvelé, attaché, vivifié, inondé par cette sève du cep qui est une image du Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit est comme passé sous silence dans cette parabole. Hein, mais il y est présent. Hein, il y est abondamment présent. Il est la sève. Vous savez, la sève ne se voit pas. Le cep, lui, se voit, les sarments se voient, mais la sève ne se voit pas. Le Saint-Esprit, lui, a toujours eu, depuis le commencement, un ministère assez effacé, hein, caché même, mais combien puissant, combien puissant. Sans la sève, eh bien, il n'y a rien ici qui vaille, ou qui tienne. Jésus, en parlant du Saint-Esprit, en Jean chapitre 16, dit qu'il prendra des choses qui appartiennent au Christ pour nous les communiquer. Jésus précise que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais qu'il dira ce qu'il aura entendu, qu'il rapportera ce qu'il aura reçu. C'est un peu son ministère, hein ? Alors, je reste sur cette précision du Christ à propos du Saint-Esprit. Il ne parlera pas de lui-même. Nous avons aujourd'hui dans le monde toutes sortes de mouvements qui ne cessent de parler du Saint-Esprit constamment. Constamment, constamment. Dans cette parabole, le Saint-Esprit est là, présent, mais de manière effacée, mais combien présente, hein ? Mais quand même de manière effacée. Et Jésus dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Et à ceux qui ne cessent, ne cessent, ne cessent, ne cessent, ne cessent de parler du Saint-Esprit, encore qu'il faille l'enseigner, hein, en tant que troisième personne de la Trinité, je dis, attention, vous parlez trop de celui qui ne parle pas de lui-même. Alors, attention, attention, ceci une courte allusion à tous ces mouvements qui ne cessent de parler du Saint-Esprit, je dirais de manière parfois trop exagérée, au point qu'on ne voit plus que par le Saint-Esprit et que même la parole n'est plus en accord avec lui. Beaucoup, par exemple, m'ont dit, moi, il y a une chose qui compte, c'est le Saint-Esprit. Le reste, hein, ça ne tient pas pour moi, mais le Saint-Esprit et la parole sont toujours d'accord. Et la parole est mentionnée par Christ au verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Tandis que le Saint-Esprit ne l'est pas, il est là, présent, de manière très cachée, mais combien agissant. Donc, il en est de même de notre union au Christ. Elle échappe au regard de ceux qui nous entourent, au bureau, à l'atelier, en famille. Hein, elle échappe. Mais la vie de Christ, il n'empêche, coule en nous. Et nous avons, comme le sarment, besoin d'une sève constamment renouvelée. Nous avons besoin de recevoir grâce sur grâce, hein, de cette plénitude de vie en Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, au chapitre 1 et au verset 4, a dit ce qui suit. Nous avons été, nous sommes rendus participants de la nature divine. La vie du divin cep par le Saint-Esprit se projette dans le sarment. Un chrétien est donc quelqu'un qui a reçu en lui la nature divine. Mais c'est merveilleux cela. C'est quand même extraordinaire. C'est ce qui nous distingue des non-chrétiens. Nous avons reçu la nature même de Dieu comme un enfant, par exemple, et la chair et le sang de ses parents. Nous aussi, nous sommes, je ne dirais pas la chair et le sang de notre Père Céleste et du Seigneur Jésus-Christ, mais au plan spirituel, oui, si vous le voulez. Hein, la vie passe en nous, la vie divine passe en nous. Nous avons reçu la nature divine. Et comme un enfant peut porter un air de ses parents qui l'ont engendré, on dit souvent que mes deux filles me ressemblent, hein, voilà. Et c'est bien vrai, celles qui viennent, les enfants qui viennent s'ajouter aux nôtres chez nous, n'ont pas un air de famille, comme Myriam et Elisabeth, ce qui peut se comprendre. Comme un enfant porte en lui un air de ses parents, eh bien, le chrétien, lui, porte aussi un air de celui, les traits de celui qu'il a engendré. Il est véritablement enfant de Dieu. Hein, nous avons été rendus, dit encore Hébreux 3,14, rendus participants de la nature de Christ. La nature du Christ est en nous. Il y a donc en nous un dépôt formidable, hein, un dépôt unique. Et quand on vous pose la question, mais quelle différence entre un chrétien et un non-chrétien? Mais parlez de cette nature divine qui coule en nous et qui fait toute la différence. Le non-chrétien n'a rien reçu de cela. Alors, étant de la nature de Dieu, eh bien, nous appartenons à la famille de Dieu, hein, comme le sarment appartient au cep, est lié à lui. Ceci, comme introduction. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Il est parlé d'émondage, en ces termes. Au chapitre 15, toujours, à la fin du verset 2, « Tout sarment qui porte du fruit, mon Père l'émonde, hein, afin qu'il porte encore davantage, encore plus de fruits. » Il est question donc de taille, d'émondage, des sarments. Le cep, lui, n'est pas taillé. Il n'a pas besoin de l'être, hein, puisque le cep est le vrai cep, le divin cep. Ce sont les sarments qui le sont. Et pourquoi doivent-ils être taillés, émondés? Au moins pour quatre raisons. Tout d'abord, pour éviter une déperdition de sève. On taille la vigne pour éviter une déperdition de sève, de vie. Deuxièmement, pour attacher plus solidement le sarment au cep. En effet, quand le sarment n'est pas taillé, il part dans toutes les directions. Il va même très loin, il donne un abondant feuillage. Et il risque, par cet abondant feuillage, de ne donner que quelques minuscules fruits, que quelques rares fruits. Et on sait ce qu'il en est advenu, par exemple, du figuier, au magnifique feuillage, mais qui n'avait pas de fruits, et que Jésus a dû maudire et sécher. Alors, pour ne pas que le serment parte comme ça dans n'importe quelle direction, et pour qu'il reste tout près du cep et attaché au cep, de manière à recevoir une sève encore plus abondante dans le but de porter du fruit, hein, il est taillé. Troisièmement, taillé aussi, bien sûr, pour un fruit plus abondant. Donc, je répète, premièrement, pour éviter une déperdition de sève, de vie. Deuxièmement, pour être plus étroitement, plus solidement attaché au cep. Troisièmement, pour porter un fruit plus abondant. Quatrièmement, parce que Dieu veut que sa vigne soit belle. Hein ? Il la soigne, sa vigne. Nous allons faire le détail maintenant. Et nous pourrions donner pour titre à ce deuxième chapitre le suivant, chasser les gaspilles. On est tout à fait dans l'actualité. Chasser les gaspilles, les gaspillages. Vous comprenez que pour le sarment, être taillé ne va pas sans souffrance. Et si le sarment pouvait parler, il dirait peut-être au vigneron, mais pourquoi est-ce que tu me coupes comme ça ? Pourquoi est-ce que tu me saignes ? Pourquoi est-ce que tu me tailles ? Pourquoi est-ce que tu m'émondes ? Je ne te comprends pas. Comme nous, chrétiens, qui souvent, lorsque l'épreuve est là, nous sommes à nous demander, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, nous venons de le dire. Nous ne comprenons pas souvent pourquoi le Seigneur permet certaines choses. Il nous aime, nous savons qu'il veut le meilleur pour nous, et il nous arrive des choses qui nous font tellement souffrir qu'on peut s'en prendre à Dieu, comme le sarment pourrait s'en prendre au vigneron. Pourquoi ? Alors nous ne comprenons pas tout. Nous ne comprenons pas tout, mais la Bible enseigne que la discipline, l'épreuve, la souffrance sont permises de Dieu, sont voulues de Dieu pour nous attacher plus fortement à Christ. Je ne sais pas si vous avez lu, et c'est avec tremblement que je vais évoquer ce douloureux problème, ce qui est arrivé à la famille Tamayou ces derniers mois. Avant l'été, Marcel Tabayou, vous le connaissez ? A eu donc un infarctus, vraiment dans sa forme la plus grave. D'ailleurs, en passant, je vous demande de prier pour lui. Je l'ai eu au téléphone, puis ici, d'ailleurs, je l'ai appelé. Ça va mieux, il est à Paris la semaine prochaine, nous allons nous voir. Dieu voulant, mais il y va pour une opération du cœur. Donc, un infarctus dans sa forme la plus grave. En réanimation pendant un mois, entre la vie et la mort, c'est dur. Et après cela, une chaîne de prières s'est faite un peu partout en France en sa faveur pour que Dieu accomplisse sa volonté, avec bien sûr cette tendance de demander à Dieu, Seigneur, rends-le au sien. Alors Dieu l'a fait dans sa grâce et Marcel en est sorti petit à petit. Mais tandis qu'il était en train d'en sortir, son fils, Frédéric, 17 ans, est allé aux États-Unis pour entrer dans un institut public et se former en vue d'un ministère en France. Arrivé sur le sol américain, ce fils, Frédéric, 17 ans, frappé d'une crise cardiaque et mourant subitement. Hein ? Alors, c'était dur, dur, Seigneur, pourquoi, etc. Non seulement chez Marcel, dans ce foyer, mais même chez nous, qui l'aimons, l'affectionnons, etc. Une toute récente circulaire que vous avez peut-être reçue de Marcel. Vous l'avez reçue, non ? Quelqu'un ? Personne. Je ne l'ai pas avec moi, je l'ai laissée à ma femme pour qu'elle la lise. Raconte pourquoi ces épreuves. Marcel raconte pourquoi ces épreuves. Et je vous assure que ça m'a réellement ému. Marcel dit dans cette dernière circulaire que toutes ces épreuves, avec Suzanne, son épouse, ont été pour les attacher plus intimement au Christ. Et que jamais ils n'ont eu de Dieu la révélation qu'ils ont eue au sein de ces souffrances, de ces épreuves douloureuses. Jamais, jamais, ils n'ont connu autant l'intimité du Seigneur. Alors, on ne sait souvent pas pourquoi, mais Marcel a donc dit ce qui suit dans sa dernière circulaire, et j'ai béni Dieu de ce que Marcel ait pu parler ainsi. Spurgeon a dit ce qui suit, « Dieu tire ses plus grands hommes, ses plus grands serviteurs, ses plus grandes servantes. Il les tire du sein des plus grandes fournaises. Il les tire du sein des plus grandes souffrances. Hein. La souffrance fait partie du programme chrétien. Mais quand nous savons qu'elle est là pour qu'un fruit plus abondant soit porté et qu'elle n'est pas, j'allais dire, une manifestation d'un cœur dur, celui de notre Père Céleste, non. Au contraire, c'est ce qui ressort des Saintes Écritures, n'est-ce pas ? Tous ceux qui ont souffert. Un jour, il faudrait, par exemple, que nous traitions ensemble, sur plusieurs soirs, les difficultés de quelques hommes de la Bible confrontés à la volonté de Dieu. Hein ? Abraham confronté à la volonté de Dieu, Moïse, etc. Et les autres, hein ? Des hommes, des femmes, ça a été dur, hein ? Ça a été ardu très souvent. Mais on voit un Jacob sorti géant, hein, du combat avec Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu est venu comme ça s'opposer à Jacob et combattre avec lui, et Jacob est sorti boiteux, hein, de ce combat. La Bible dit, Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alors, les mondages parlent de souffrance, hein, de discipline, d'épreuve, etc. Mais nous savons qu'il est nécessaire en vue d'éviter une déperdition de vie. On ne le comprend pas souvent, mais on le comprendra un jour. Toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, ça c'est écrit. Hein. Alors, je me suis gardé d'écrire ça à Marcel. Alors c'est le Tabayou, bien sûr, parce que c'est trop facile, hein, d'écrire ça, surtout dans une telle épreuve. Hein. Mais Dieu a parlé à Marcel et à Suzanne, Dieu les a touchés au fond d'eux-mêmes, mais d'une manière tellement intime qu'ils ont dû écrire cette circulaire, et dommage que je ne l'ai pas, nous aurions certainement pleuré ensemble, je vous assure, hein. On aurait pleuré tous ici ensemble. Dieu est monde, il taille. N'est-il pas vrai que très souvent, nous gaspillons des forces, des énergies dans des actions vaines, dans un activisme ? Nous avons par exemple étudié ensemble l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, il me semble, une fois ici. Nous avons parlé de cet activisme, de cette église, hein, auquel Jésus a dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » En tout cas, toute cette souffrance de l'émondage vise a pour objectif la gloire de Dieu. Le fruit porté à sa gloire. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez réellement mes disciples. Alors, le vigneron va faire tomber tout ce qui est inutile. Des choses qui nous paraissent utiles sont aux yeux de Dieu inutiles, et c'est lui qui voit cela, souvent. Nous ne le voyons pas. Et puis, l'épreuve nous attache à Dieu, solidement. N'ai-je pas dit un jour ici, je ne m'en souviens plus, j'ai regardé en tout cas dans le cahier des messages que j'ai, mais je ne crois pas avoir parlé là-dessus. Ce sont les arbres habitués au vent qui tiennent le mieux au jour des grandes tempêtes. Au désert, si vous connaissez le désert, je connais le désert, il y a énormément de palmiers. Et le palmier est par excellence l'arbre du désert. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le palmier est un arbre qui plonge des racines très 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 profondes dans le sol. Il va à la recherche d'une eau cachée, de nappes cachées très profondément dans le désert. Et quand on est dans le désert, on s'étonne de voir, par exemple, des palmiers à tel endroit. On se demande pourquoi ils vivent, comment ils vivent. Bien parce qu'ils plongent profondément leurs racines, on ne voit pas, n'est-ce pas? Ils vont chercher des nappes cachées. Comme nous, chrétiens, hein, nos sources sont ailleurs, hein, dit un psaume. On va nous plonger des racines dans ces nappes cachées que le monde ne voit pas. Et il y a dans le désert de ces vents qui soufflent, comme le simoun ou le sirocco, de ces vents qui soufflent. Alors, et puis alors, vous voyez ces palmiers, d'ailleurs ce vent fait du bruit là, dans le feuillage des palmiers. Et vous voyez ces palmiers qui se courbent, qui penchent dangereusement. On a l'impression qu'ils vont craquer. Hein, quand le vent souffle en rafale, on voit les palmiers se courber, se pencher, rester pendant longtemps ainsi. Quand le vent s'arrête, ils remontent. C'est fantastique. D'ailleurs, la Bible dit que le juste croît comme le palmier. Hein, du verbe croître. Hein, il croît comme le palmier. Alors, au jour des grandes tempêtes, le palmier tient parce qu'il a de profondes racines dans le sol. Et il faut nous aussi, pour que nous tenions au sein des grandes tempêtes de la vie. Et il y en a des tempêtes, hein, qui n'en a pas. Qu'est-ce qu'on peut déguster, hein, Seigneur, pourquoi tout cela? Simplement que Dieu veut que nous plongions davantage de racines en lui. Et que de fois, Dieu m'a donné d'aller visiter des hommes, des femmes de Dieu dans la souffrance, dans l'épreuve, etc. Et je me souviens toujours de cette dame, une femme de Dieu vraiment, qui était atteinte d'un cancer généralisé, que j'avais été voir, mais que je tremblais d'aller voir. Parce que j'étais là à me dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire ? Franchement, vous êtes en présence d'une personne au bout, carrément au bout de son existence, atteinte d'un cancer généralisé, dans des souffrances terribles. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais il fallait la voir, cette sœur en Christ. Alors je suis allé, on m'a reçu, son mari m'a reçu. Alors je lui ai demandé, est-ce qu'elle est visible, votre épouse? Oui, elle est visible. Et puis j'ai entendu là-bas derrière, ah oui, oui, qu'il vienne, qu'il entre. Alors je suis entré, j'ai trouvé, en effet, une personne très mal en point, mais dans une paix, un rayonnement absolument unique. Hein. Parce que dans ce genre d'épreuve, Dieu réellement donne la force pour que l'épreuve soit supportée. Avec l'épreuve, il donne le moyen d'en sortir, la force, le moyen d'en sortir. Et j'ai été soufflé, moi je n'ai rien dit, j'ai regardé cette dame, elle a parlé. Et à un certain moment de notre entretien, j'avais comme l'impression que le malade c'était moi. et qu'elle était vraiment en pleine santé spirituelle. Et en sortant de là, j'ai dit, mais Seigneur, merci, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. J'étais donc allé pour lui faire du bien, et c'est elle qui m'en a fait. Hein ? Vous savez, quand la souffrance est bien saisie, bien comprise, quel témoignage. Aux yeux du monde, que d'hommes, de femmes se convertissent parce qu'ils voient des chrétiens souffrir. Alors, on dit par exemple que le chrétien ne devrait jamais connaître la souffrance, il ne devrait pas connaître l'épreuve, la maladie. Moi, je ne vois jamais ça dans les Saintes Écritures. Alors, nous serions une classe d'hommes, de femmes, disons, privilégiés sur ce plan. Et que d'hommes, de femmes, alors, voudraient peut-être, désireraient se convertir dans ce but. Moi, je crois au contraire que ce que Dieu veut, c'est que dans de mêmes circonstances que les non-chrétiens, dans de mêmes données, hein, nous réagissions différemment. C'est ça qui fait la différence. Si nous réagissons comme les non-chrétiens, après avoir dit que nous sommes chrétiens, ben les autres vont nous dire, hein, bonnet blanc et blanc bonnet. La même chose. Bien non. Si dans l'épreuve, on réagit différemment, alors le monde fait la différence. Peut-être vous ai-je un jour parlé de cette personne que je visitais, une sœur, elle aussi atteinte, une autre sœur atteinte d'un cancer généralisé, et qui était au bout, elle aussi. Je l'ai visitée un jour à l'hôpital, puis elle m'a dit, « Mais Alain Chouaquet, je ne comprends pas. J'ai eu une vision hier soir. »« Ah bon ? J'ai vu le Seigneur au pied de mon lit. Mais le Seigneur était tout gris. » Ah, je lui ai dit, « Il y a quelque chose qui ne va pas, là. » Parce que le Seigneur est glorieux. Il n'est pas tout gris. S'il était tout gris, c'est parce que peut-être l'êtes-vous vous-même dans votre cœur. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et là, alors son cœur a débordé. Puis elle m'a dit, écoute, moi je ne comprends pas, qu'est-ce que je fais ici? Je perds mon temps. Je serais tellement bien à la maison, je commençais de parler à mes voisins, je distribuerais des traités, etc. Alors dites-moi, Alain Chouaquet, je suis chrétienne, je ne comprends pas le Seigneur, moi. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'il faut dire, là? Alors, je lui dis, écoutez, je n'en sais rien, mais il est une chose que je puis alors vous dire avec conviction, c'est que vous êtes ici comme missionnaire. Vous n'êtes pas là pour rien, parce qu'on doit être missionnaire partout où Dieu nous place. Alors vous êtes là, à l'hôpital, sur votre lit, comme missionnaire, vous êtes témoin du Seigneur, voilà. Alors vous avez un rôle à jouer ici, hein. Elle m'a dit, vous croyez? Oh, je vais prier, je vais voir. Enfin, on a prié. Et je l'ai laissée toute grise. Je suis revenu quelques jours après. Et puis elle m'a dit, oh là là, Alain Chouaquet, ce que vous m'avez dit l'autre fois est tout à fait juste. Parce que le même jour, le même soir, quand vous êtes passé la dernière fois, on a mis là, à côté de moi, une dame moribonde, qui d'ailleurs est morte maintenant. Alors elle gémissait à côté dans la nuit, ça me tourmentait de la voir dans cet état. Et la voyant dans cet état, j'ai eu à cœur de lui parler du Seigneur. Je lui ai dit qu'il y a quelque chose après la mort, qu'elle n'avait pas, qu'elle avait justement à se repentir de ses péchés et à faire confiance au Christ, et que même dans sa souffrance et au bout, ça irait, le Seigneur l'aiderait. Elle avait commencé de rendre son témoignage, hein.